souhaité. Je ne suis pas comme le marbre. À la terre, je suis attachée comme les racines de l'arbre. Accepterez-vous mon passé? Mes doigts, mes mains, paumes ouvertes, tous les mots que j'ai murmurés, mes lèvres si souvent offertes, m'ont tant donné le goût d'aimer. J'ai toujours peur de ce mystère, j'en suis toujours terrorisée, toujours prête pour cette guerre. Cachée derrière des baisers, je ne suis pas comme le marbre. À la terre, je suis attachée comme les racines de l'arbre. Accepterez-vous mon passé? Nous ne dirons jamais toujours, nous irons à la découverte. Le temps nous semblera très court, toutes les portes sont ouvertes. Je ne serai plus de passage, j'ai visité tant de pays. Je me donne à vous comme gage, si pourtant vous m'avez choisi.
Jeanne Moreau pour nous accompagner au long de cette émission. Rina, alors tu nous donnais des précisions sur les muqueuses, faudrait, et sur par rapport à la question que posait Viviane, est-ce qu'on prend du poids habituellement à la veille ou pendant les phénomènes qui accompagnent la ménopause?
Alors parmi ces changements qu'on peut remarquer, à part la qualité de la peau, il y a également cette question de prise de poids. Alors ce qui est physiologique, c'est que la répartition des graisses change. Et on ne met plus la graisse au même endroit. Et en effet, on change de corps. Le fait qu'il y ait moins d'œstrogènes, qu'il y ait une stimulation hormonale différente, nous donne une forme de corps différente, avec pas exactement les mêmes rondeurs qu'auparavant. On prend plus de poids autour de la taille en particulier, et ça, c'est parfaitement physiologique. Et prendre un petit peu de poids est d'ailleurs une fort bonne chose dans ce groupe d'âge, parce que les seules hormones œstrogènes qui restent sont sécrétées en fait par les surrénales, c'est les stéroïdes, et ils sont transformés en œstrogènes dans les tissus gras. Donc une femme qui est très très maigre, elle risque d'avoir une ménopause un petit peu plus désagréable qu'une femme qui est un peu enveloppée. Ceci dit, un peu enveloppée, ça ne veut pas dire très enveloppée. Et à un certain poids, ça peut commencer à devenir dérangeant. Et là, revient encore une fois cet équilibre entre ce qu'on mange et l'exercice physique qu'on fait. Et ça, c'est quelque chose de difficile à admettre. Mais souvent, dans ce groupe d'âge, on se sédentarise un peu, on fait moins d'exercice physique et puis on continue à se tasser la cloche, voire même un peu plus qu'on ne le faisait auparavant. Et des fois, ça peut dépasser ce phénomène physiologique.
On va moins danser, on fait plus les petites bouffes. Alors, je vous propose de vous lire l'extrait du témoignage de Dina, dont Rina Nissim nous parlait tout à l'heure, qui illustre son livre donc sur réflexions et alternatives aux hormones de remplacement à propos de la ménopause, et en particulier le passage où justement elle évoque ces signes qu'elle a ressentis sur elle-même sur le changement, à propos du changement de son corps. Parmi les signes de vieillissement que je remarque, il y a bien entendu la fameuse sécheresse des muqueuses, non seulement du vagin, mais aussi les muqueuses du nez et rarement la sécheresse de l'œil. Il existe bien entendu des gouttes, solutions physiologiques pour le nez et larmes artificielles pour les yeux. À part ça, mes cheveux ont changé de consistance. Ils sont plus mous, plus fins, plus rares. Mes dents sont relativement en bon état, mais jaunies par 50 ans de tabagisme. J'ai arrêté de fumer il y a 2 ans. Du point de vue des changements dans mon aspect physique, celui qui m'a le plus chagriné, que j'ai vraiment ressenti comme un coup bas, eh oui, a été la perte progressive des poils pubiens. Rien ne m'y avait préparé, personne ne m'y avait jamais fait allusion, même pas dans mon groupe ménopause. Or donc, me voyant petit à petit devenir chauve dans mon triangle des Bermudes, je me préparais à aller consulter un dermatologue. Heureusement que la Providence a décidé d'intervenir dans mes affaires privées pour m'éviter la scène pénible qui s'en serait suivie. Mais ma petite dame m'aurait fait mon dermato avec un sourire apitoyé. À votre âge, c'est un phénomène tout à fait normal. La Providence, en l'occurrence, prit la forme de notre patronne Sainte Simone de Beauvoir avec son livre « Une mort si douce ». Elle y décrit la maladie et la mort de sa mère et je suis tombée en arrêt en lisant ces mots « Le pubis glabre de ma mère ». Donc, ça n'arrivait pas qu'à moi. Renseignement pris, la chose me fut confirmée. Oui, tout comme à la puberté, on se couvre de poils pubiens. De même, au retour d'âge, on les perd. Quoi d'autre encore dans le changement de mon corps? J'ai quelques douleurs arthritiques de temps en temps, mais à part ça, tout va plutôt bien, Madame la Marquise. Alors Dina mentionne encore d'autres changements dont nous n'avions pas encore parlé jusqu'à maintenant. Bon, la sécheresse des muqueuses, tu n'as parlé pour l'instant que de celle du nez associée au changement de notre peau, par exemple.
La sécheresse des muqueuses, c'est quand même quelque chose de très très important. En particulier en raison de la sexualité, en raison du fait que la sexualité hétérosexuelle est surtout basée sur la pénétration et que ça peut être, devenir un obstacle. Et que si ça devient un obstacle, ça peut gripper carrément toute la relation et la femme peut alors en effet avoir l'impression que peut-être c'est la fin de sa sexualité. Et en fait, là, il y aurait un petit virage à prendre sur la manière d'avoir des rapports. Il faut d'abord penser à avoir des prémisses beaucoup plus longues parce que la lubrification, elle se fait, mais elle se fait plus lentement qu'auparavant. Donc, il faut prendre plus de temps et avoir plus de jeux manuels et sexuels avant la pénétration pour permettre à la lubrification de se faire. Et ensuite, peut-être remettre la pénétration à sa juste place et pas en faire l'acte unique de la sexualité, mais essayer de dégénitaliser un petit peu la sexualité. Donc moi, je parle souvent de ça en consultation avec les femmes et c'est peut-être une occasion, justement, comme pour les adolescentes, d'essayer de découvrir d'autres zones érogènes et d'essayer d'élargir tous les rapports possibles, justement, pour ne pas se coincer sur ce problème, parce que vous connaissez la théorie de Pavlov, si une action est suivie d'une punition trop de fois de suite, ensuite il y a une espèce d'anticipation négative qui se fait, puis on se dit aïe aïe aïe, je sens que ça va de nouveau me faire mal, catastrophe, et puis il y a une crispation, et puis ça fait encore plus mal. Donc il faut à tout prix trouver des moyens, et avec un partenaire collaborant ça doit être possible, pour ne pas se mettre dans cette situation. Et de continuer des rapports, c'est plutôt positif en fait. Hein. Ça accélère la vascularisation dans le petit bassin, c'est plutôt positif. Ce qui est le plus difficile peut-être, ce serait pour une femme qui, dans cette période-là, n'aurait pas de partenaire, qui n'aurait pas de rapport pendant des années, admettons. Par exemple, un décès, hein. Une femme qui perd son mari et puis qui, quelques années après, se remarie et essaye de recommencer à avoir des rapports. Alors là, ça pourrait être difficile. Et il pourrait y avoir, par exemple, une atrophie qui se ferait. Et alors là, elle pourrait en effet avoir de la difficulté à avoir des rapports normaux. Mais en admettant qu'elle continue, mais d'une manière respectueuse, hein, au bout de quelques temps, les choses vont se rééquilibrer. Et il y a toutes sortes de lubrifiants qu'on peut employer. La salive est toujours à portée de main, mais il y en a d'autres plus sophistiqués. On conseille en général de ne pas employer la vaseline, parce que c'est un produit qui est mauvais pour la muqueuse et puis qui en plus fait péter les préservatifs, donc c'est vraiment pas conseillable. Mais il y a d'autres lubrifiants qu'on peut employer. On peut également y ajouter des petites plantes qui sont favorables à la santé des muqueuses. Je parlais tout à l'heure du soya. Bon, il y a aussi les huiles qui sont très très importantes. Et une des raisons pour lesquelles on a ces difficultés, c'est que nous autres, les Occidentaux, on a une peau très sèche. Hein. Je veux dire que si on se compare aux Asiatiques, on est vraiment très très sec. Quand on touche notre peau, si on ne se met pas de la crème, c'est vraiment terriblement sec. Et c'est qu'en fait, on mange très très peu d'huile. Et si on regarde les Asiatiques, ils ont une peau beaucoup plus saine et brillante que la nôtre. Et puis ils ont des cheveux beaucoup plus brillants que les nôtres. Les nôtres sont quasiment ternes et mates en comparaison. Et nous avons à Neuchâtel un masseur qui vient de Paris, qui est un Indien, qui nous fait toujours chauffer de l'huile de sésame à l'avance, pour que ce soit tiède quand ils massent les gens avec cette huile. Eh bien, figurez-vous que 2 litres disparaissent en une séance. Hein, parce qu'à peine ils l'appliquent sur la peau des gens, la peau, elle pompe cette huile, parce que tellement elle en est pauvre. Hein. Donc, un des moyens pour avoir une peau saine et une muqueuse saine, c'est de consommer beaucoup d'huile pressée à froid, de celles qui sont riches en vitamines E et F.
Et puis, bien sûr, il y a le gros problème de la ménopause, peut-être pas directement autour de la ménopause, mais induit par la ménopause, c'est les problèmes osseux articulaires et puis l'ostéoporose, c'est-à-dire que la perte de calcium et l'os devient de plus en plus fragile.
Alors, ça nous ramène là aux gros arguments des multinationales pharmaceutiques. Est-ce que je peux faire une petite ouvrir un petit tiroir dans ce dans
je voulais,
ce chapitre.
Je voulais y aller après, mais vas-y.
Je voulais y aller après. Bon.
Alors,
brièvement, pour en revenir après sur le gros développement du sujet, je pense que l'ostéoporose est un argument que les multinationales pharmaceutiques emploient pour redorer le blason des hormones et pour essayer de trouver un nouvel argument incontournable pour justifier des prescriptions massives d'hormones. En fait, l'ostéoporose n'est pas liée à la ménopause. Je veux dire, les hommes ont aussi de l'ostéoporose et ça leur arrive aussi en fin de vie, des fois, de se casser un col du fémur ou d'avoir même des fractures spontanées. Donc, on ne peut pas vraiment dire que ce soit un phénomène qui est directement lié à la ménopause. Il est exact que les œstrogènes ralentissent la perte de calcium de l'os. Donc, il est exact que pendant les années de la ménopause, il peut y avoir une chute de la minéralisation, mais par contre, il est faux qu'on ne peut que se déminéraliser. Donc le tableau qui nous est peint là, c'est qu'en fait, avec le vieillissement, on peut que se déminéraliser, ça va toujours en pente descendante, et puis que comme on vit de plus en plus longtemps, ben, on risquerait de se retrouver avec un corps tout cassé, alors qu'on aurait encore une tête fraîche et un cœur et des poumons en bonne santé. Ben, ça, c'est une vision qui est erronée, à mon avis. On peut tout à fait se reminéraliser, même à 80 ans, il y a des études qui le montrent, et c'est lié avec la manière dont on s'alimente et puis avec l'exercice physique qu'on fait. Ça part en fait d'une observation toute bête, c'est que le joueur de tennis a le bras qui tient la raquette 35% plus minéralisé que l'autre bras. Ce qui signifie que rien que le fait de faire pim, pim contre la balle, ça donne en fait un ordre à l'os qui entend ce pim, pim, il se dit aïe, 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 on me tape, alors j'ai intérêt à minéraliser mon os pour mieux tenir le coup au prochain coup de balle. Donc en fait, on peut reminéraliser des personnages et tout bêtement en leur mettant un bracelet avec du plomb comme les danseuses employent pour leur entraînement et puis en faisant des petits mouvements de rotation du membre ou de soulever le membre. Et rien que ça, s'il y a un apport alimentaire suffisant, ça refait parfaitement, ça fait une reminéralisation lente bien sûr. Plus on vieillit, plus le renouvellement cellulaire est lent, ça c'est normal. La même chose pour la peau et pour les cheveux. Donc, mais on fait quand même, on refait son ossature en 2 ans, disons, on refait quand même une bonne partie de son ossature, donc on peut se reminéraliser. Donc, je pense que l'ostéoporose est un problème vrai, mais enfin, il touche quand même que 1% de la population, et puis les fractures, il y en a, mais ça ne court pas les rues non plus. Donc, je ne suis pas convaincue que ce soit un argument suffisant pour justifier de mettre toutes les femmes sous hormones.
Alors on en vient justement à la deuxième partie de l'émission, c'est-à-dire effectivement qu'est-ce que nous propose la médecine allopathique, c'est principalement les traitements hormonaux. La troisième partie de l'émission, ce sera plutôt les traitements que toi tu proposes dans ton livre, comment effectivement faire face aux problèmes liés à la ménopause par des voies plus naturelles. Mais je vous propose une virgule de musique.
Thank you.
Catherine Lara avec nous dans Remue Ménage Radio Zone 93.8 et nous parlons ménopause en compagnie de Rina Nissim à propos entre autres de la sortie de son livre Réflexions et alternatives aux hormones de remplacement. Rina, peut-être avant de se lancer dans l'alternative justement hormones ou médecine plus douce, moyen plus doux que tu proposes, est-ce que tu as souvent mentionné dans notre conversation tout à l'heure que le mode de vie pouvait avoir une influence sur ces événements, à savoir la façon dont nous nourrissons et la façon dont nous vivons très sédentaire ou pas très sédentaire, en bougeant ou en ne bougeant pas. Est-ce que tu pourrais préciser un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire bien se nourrir? Est-ce que vraiment ça faciliterait les choses? On arriverait dans de meilleures dispositions pour réagir à ces changements si on a eu une diététique particulière.
Alors c'est difficile de dire ces choses d'une manière non moraliste et c'est presque plus facile en entretien individuel parce qu'on peut toujours demander à la personne comment tu manges et puis essayer de voir qu'est-ce qui est en trop ou qu'est-ce qui est en pas assez et puis essayer d'améliorer. Tandis que quand on le dit d'une manière comme ça générale, ça fait tout de suite un peu assommoir. Alors je m'en excuse auprès des auditrices, mais enfin quand même, en gros dans notre civilisation, notre manière de manger, en particulier depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a deux problèmes. Les céréales sont trop raffinées, et ça c'est un gros problème qu'on a, c'est que l'industrie alimentaire raffine toutes nos céréales et donc on mange des espèces de calories creuses en quelque sorte, dans lesquelles il y a que la partie féculente, si vous voulez, il n'y a que l'amidon en quelque sorte du grain, et puis il manque son enveloppe, et or sur son enveloppe, à part que ça fait du ballast et puis que ça forme les sels, ça contient aussi quelques minéraux et quelques vitamines, et puis que d'en être carencé, ça fait entre autres des tas de problèmes fonctionnels et aussi lésionnels, comme par exemple l'ostéoporose. Ça c'est un grand enjeu, disons, de la lutte écolo, si vous voulez. Pourquoi on raffine tellement les céréales? Pourquoi on mange du pain blanc et du riz blanc, puis à côté on achète du son de froment pour le mettre dans son yogourt pour essayer de se déconstiper? Ça c'est vraiment l'aberration du monde moderne. Et puis l'autre problème, c'est qu'on mange beaucoup trop de protéines animales. Et ça, c'est vraiment depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu une période de disette, topinambour et compagnie. Et alors après cette période de disette, quand ça a été un petit peu mieux, qu'il y a eu une période d'abondance, les gens, ils ont voulu se tasser un peu la cloche et puis ils ont pris un petit peu ce pli qui est devenu l'alimentation suisse d'aujourd'hui et qui est un petit peu semblable dans les pays voisins. C'est beurre le matin sur sa tartine, viande à midi et puis fromage ou charcuterie le soir. Et puis ça, c'est une alimentation qui est beaucoup trop lourde en protéines animales. Ça va pour un enfant, ça va pour un jeune homme, ou pour quelqu'un qui a une activité physique importante, un travailleur sur le bâtiment, enfin quelqu'un vraiment qui se donne physiquement énormément, mais ça ne va pas pour des gens qui ont une vie sédentaire, mettre au boulot dodo, et encore moins pour une personne qui arrive dans un âge où le métabolisme descend gentiment et brûle de moins en moins. Et là, ça commence à faire des problèmes. Alors, qu'est-ce que ça fait comme problème? Ça encrasse les vaisseaux, ça fait l'hypertension, ça fait les accidents vasculaires cérébraux, etc., etc., qui surviennent jeunes maintenant. Avant, ça survenait aussi, mais ça survenait tout à la fin de la vie. On avait bien vécu, puis bon, on finissait par une attaque, ça va. Mais commencer les infarctus à 40 ans, c'est vraiment un problème, disons. Alors, on médicalise ces personnes à fond, puis on les récupère, mais enfin, ça commence à coincer sec. Et puis, l'autre problème, c'est les problèmes tumoraux. Je veux dire, on ne sait plus où mettre cet excédent. On ne parvient pas à le brûler au fur et à mesure. Alors, on le met dans des espèces de tas. On fait des espèces de stocks à gauche et à droite. Et on fait en fait des problèmes tumoraux parce qu'on ne sait pas où mettre toutes ces choses. Alors, dit comme ça, ça paraît très général. Mais en effet, si on a une vie saine et qu'on mange au fur et à mesure de ce qu'on parvient à brûler et qu'on se bouge suffisamment, on se prépare une ménopause beaucoup plus agréable. Entre autres, l'exercice physique diminue les bouffées de chaleur, justement parce que ça mate ce problème neurovégétatif et vasculaire dont je parlais avant. Ça entretient la pompe mieux. Et toute l'affaire du réchauffement, de transpirer, ça permet de diminuer substantiellement les bouffées de chaleur. Diminuer la viande permet aussi de diminuer substantiellement les bouffées de chaleur. Donc il y a en effet des moyens et on peut les tester sur le champ. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir expérimenté ça 10 ans auparavant pour en voir les effets. On peut, en quelques mois, avec des changements alimentaires, on voit des changements réels dans la manière dont le corps fonctionne. Donc c'est assez satisfaisant et assez enthousiasmant comme histoire.
Tu as aussi cité juste avant les huiles, donc manger peut-être plus, remplacer le beurre par des huiles pressées à froid.
Plus d'huile pressée à froid.
C'est tartiner avec de l'huile plutôt qu'avec du beurre.
Et en mettre partout, je veux dire, on ne devrait pas mettre du beurre sur les épinards, on devrait mettre une bonne cuillère à soupe d'une huile pressée à froid, et idem sur les céréales, et ça irait beaucoup mieux pour notre système. Ils s'en trouveraient beaucoup plus heureux.
Il faut peut-être insister que ces changements alimentaires, ce n'est pas bien compliqué. Ça ne consiste pas à prendre des médicaments non plus. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup de gens à qui on dit « je mange des céréales le matin » ou « je mange moins de viande, je ne suis pas fan de viande ». Ils ont l'impression qu'on fait un régime complètement compliqué et baba cool. Alors je crois qu'aujourd'hui, ça commence à vraiment être facile. Il y a des pains complets partout et on trouve ces choses-là de plus en plus facilement. C'est un choix facile.
Il y a beaucoup de femmes qui le font par elles-mêmes. Disons, bien avant la ménopause, elles se rendent compte que ces repas sont trop lourds. Et puis qu'elles digèrent mal la nuit, que ça les dérange. Donc ils disent, bon, ben voilà, cet aliment-là, j'enlève, ça passe plus. Donc il y a certaines personnes qui le font spontanément. Si on le fait spontanément au fur et à mesure, tout va bien. Si on ne s'en rend pas compte et puis qu'on attend qu'il y ait une maladie qui nous le révèle, eh ben, c'est un peu plus désagréable, c'est sûr.
Mais Dina, dont on parlait tout à l'heure, qui a témoigné pour toi, a dit cependant qu'elle prenait depuis des années un supplément vitamine-minéraux. Devrions-nous faire cela aussi?
Dina est une femme qui a beaucoup voyagé, c'est une interprète. Là, elle fait quelque chose qui est un petit peu à l'américaine, si vous voulez. C'est une habitude typiquement américaine de prendre des suppléments alimentaires. Chez nous, c'est peut-être moins courant, mais l'idée n'est pas idiote. Si on a un petit peu du mal à manger ces huiles pressées à froid, peut-être c'est préférable de prendre une de ces huiles en gélule. On prend une des huiles les plus riches, on prend onagre ou bourrache ou germe de blé, qui sont des huiles qui auraient des goûts un peu trop forts. On pourrait pas les mettre comme ça facilement sur un plat d'épinards. Et puis on les voit là, on les prend en gélule comme un supplément alimentaire. Comme ça, on couvre un petit peu cette période de transition. Et puis on diminue sensiblement les symptômes qu'on pourrait avoir. Ça, c'est une des méthodes. Et puis l'autre, les minéraux, ça ramène à la question du calcium. Est-ce qu'on trouve suffisamment de calcium au cours de sa journée? On peut, si on mange des céréales complètes et si on mange une bonne poignée d'amandes ou si on mange quelques dattes ou des figues ou du sésame. Il y a toutes sortes de sources de calcium, à part le fromage dont on nous assomme parce que l'industrie laitière suisse est très puissante et qu'elle nous fait croire que le calcium, c'est pratiquement que le fromage. En fait, c'est faux. Il y a plein de sources de calcium, mais c'est exact que, par exemple, Dina, qui est interprète, qui voyage beaucoup, elle ne mange pas chez elle. Donc, ça veut dire qu'elle est toujours dans une cafétéria de l'eau nue ici ou de Bruxelles là-bas. Et c'est pas toujours facile de trouver des céréales complètes. Alors son attitude, ça a été de compléter avec un supplément alimentaire pour éviter des carences.
Alors dans ton livre, tu pars vraiment en guerre contre les hormones de remplacement qui sont effectivement de plus en plus proposées aux femmes au moment où elles passent ce cap de la ménopause, même à des femmes plus jeunes, au moment où elles arrivent à la préménopause, les médecins, de plus en plus, proposent des hormones de remplacement pour prévenir tous ces problèmes dont on vient de parler et, bien sûr, le problème de l'ostéoporose est le plus souvent mis en avant. Alors toi, tu as vraiment des pages très, très dures et des phrases très violentes contre ces traitements.
Oui, c'est pour moi quelque chose de très important. Je crois que quand on regarde un petit peu l'histoire des hormones, c'est quand même terriblement révélateur. Je voudrais bien partager un petit moment avec les auditrices. Ça remet bien les horloges en place. Les toutes premières hormones qu'on a synthétisées, elles étaient extraites de plantes. Et on avait trouvé donc des progestérones, on avait trouvé des œstrogènes, on a commencé à vouloir les employer. La toute première qu'on a employée d'une manière commerciale, ça a été le DES. Le diéthylstilbestrol, qui était proposé d'une manière très tapageuse, comme un truc fantastique qui allait rendre toutes les grossesses pathologiques normales et les grossesses normales encore plus normales. Et on a vendu comme ça, pendant quelques années, ce DES à une très très large échelle. Et puis, on a fait quand même quelques découvertes désagréables, à commencer par le fait que le cancer augmentait, cancer de l'endomètre, et puis que même chez les filles des femmes qui avaient pris ce DES pendant la grossesse, on trouvait des tumeurs bizarres au niveau vaginal et du col, et y compris chez les garçons. Donc quelques surprises très désagréables qui ont obligé à revenir en arrière et à réemployer ces hormones d'une manière beaucoup plus prudente et beaucoup moins systématique. ces découvertes, ça va par vagues. Donc, si vous voulez, on fait une vague de publicité intense, il y a des prescriptions intenses, et puis après, tout d'un coup, on découvre qu'il y a des gros pépins, et puis alors, on se calme, il y a quelques publications désagréables qui paraissent dans des journaux médicaux, puis tout d'un coup, on se dit, aïe, 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 on a été trop loin, en fait, les grossesses se déroulent finalement mieux sans DES qu'avec DES, et on a répété cette histoire plusieurs fois. De la même manière avec la pilule contraceptive. Au début, la pilule contraceptive était 20 fois plus dosée que ce qu'elle est aujourd'hui. Elle avait été testée rapido presto sur 132 femmes. Il y avait eu 3 décès d'embolie, mais on n'avait pas vraiment fait les autopsies. On avait vite maquillé ça, tranquille, bonnard. Et puis, on a commencé à prescrire plus largement. Et puis, les effets ont commencé à se faire sentir. Donc, à chaque fois, il faut attendre une bonne dizaine d'années jusqu'à ce qu'on enregistre toutes les complications qu'il y a, et puis qu'on en tire les leçons, et puis qu'on diminue les dosages ou qu'on réadapte. Et pour les histoires des hormones de la ménopause, eh ben, c'est un peu le même problème. Il y avait un toubib dans les années 60 qui s'appelle Bob Wilson, et dans un moment, je vais vous raconter son histoire de son livre faramineux qui s'appelait « Beautiful Forever ».
Je vous arrête tout de suite, c'est le destin qui vous envoie. Vous avez besoin de moi. Je vais me présenter, écoutez ceci, et je vous ramènerai votre fille. Il faut changer de musique pour ma présentation. Je vous demande de changer de musique. Sacrébleu! Eh bien, monsieur, voici qui je suis. Je m'appelle le capitaine Gian Gorgolo aus Grossen Grund Ordemi Progresso. Monsieur, écoutez ces aventures et vous ne douterez pas de l'aventure de votre fille, je vous la ramènerai. Monsieur, ordem et progresso, c'est mon nom et voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je sais. Il n'y a pas d'imparfait du subjonctif qui me résiste. Tous les as, les us, les onces, les as, je les connais, monsieur. Et je suis un subjugateur de princesse. Je connais les yeux noirs, les roucoulements, les obades au bas du balcon.
Oui, non, mais ça va, hein, on va pas y passer la nuit, hein, je m'excuse. Mais c'est pas des us, c'est des as, c'est des onces qui va ramener ma fille.
Ah, monsieur,
alors allez-y maintenant.
Je vous en prie, reculez, je n'ai pas fini ma présentation. Je connais des poésies pour princesse, et en plus, je suis un spécialiste en subordination de l'ennemi. J'en ai estourbi des ennemis, sans jamais les tuer, toujours égratignés et graciés par ma mensuétude. Voilà, monsieur.
Capitaine, si vous la trouvez, je vous la donne. Alors, hop, un peu de nez.
Monsieur, vous en doutez, mais je vais la trouver. Je vais vous la retrouver, Isabelle. C'est moi qui vous le dis. Mais d'abord, il faut que je choisisse mon azimut. Je ne sais pas si je vais prendre le nord, le sud. Mais voici le docteur. Il doit tant l'espagnol. Il va peut-être me renseigner. Monsieur le docteur espagnol. Et voilà. Oui. Bien sûr, il parle espagnol.
Oh mon Dieu, mais moi je comprends pas un mot d'espagnol, capitaine.
Hola, dottore, hola.
Un instant. Buenos días, señores. Yo tengo que contar la receta de la...
Stop! Buenos días. Je vais faire la traduction, ne vous inquiétez pas. Il parle beaucoup, mais il a beaucoup de science. Il a beaucoup dans le ventre, il a beaucoup dans la tête. Monsieur le Castillon, veuillez vous exprimer. Nous cherchons Isabelle et nous cherchons à savoir quelle direction elle a pris. Allez.